18-20.
Un homicide chaque semaine, plus d'un vol à main armée chaque jour, 22% de chômeurs, des clandestins par dizaines de milliers et un coût de la vie qui ne cesse de s'envoler. La Guyane s'invite donc dans la campagne présidentielle par une véritable révolte populaire. Révolte contre l'insécurité et la paupérisation. Les 37 syndicats de l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, ont voté à l'unanimité la grève générale lancée ce matin et bien partie pour durer. Car le malaise est profond, le ras-le-bol unanime, sentiment d'être abandonné par Paris depuis trop longtemps déjà et malgré tant d'appels à l'aide. Bernard Cazeneuve annonce l'envoi d'une délégation de ministres avant la fin de la semaine, mais pas sûr du tout que cela suffise. Alors auditeurs de Guyane ou d'ailleurs dans les DOM-TOM ou d'ici en métropole, on attend toutes vos questions, vos commentaires au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter hashtag Telson.
Michael Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard du téléphone sonne, c'est Marie-Marthe qui nous appelle du Gers. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, je vous appelle pour témoigner. J'ai travaillé 5 ans en Guyane et quand j'ai été à la retraite, j'y suis restée parce que je suis très attachée au pays et aux gens et à la population. Alors, je m'étonne que les Guyanais aient été aussi patients parce qu'il y a une situation qu'on n'imagine pas depuis la métropole qui est extrêmement préoccupante et extrêmement difficile pour la population. Je vais vous donner par exemple au niveau de l'école. Alors on estime à plusieurs milliers d'enfants non scolarisés. Bon, il y a peut-être accentué par l'immigration clandestine. Il vient beaucoup de personnes en ce moment du Pérou, du Chili, enfin etc. Mais enfin quand même, il y a une situation scolaire catastrophique depuis des années. Et pourtant, toute la Guyane est en REP+. Très souvent, pas de place dans les lycées après la troisième, ou alors les jeunes qui habitent sur les fleuves frontaliers, Maroni, Oyapock, comme il y a très peu de place d'internat, eh bien, sont obligés d'arrêter l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer des hébergements extérieurs. Les loyers privés frôlent quelquefois ceux de Paris. L'insécurité, vous venez de le dire, la 48 morts l'année dernière. Comme il y a un chômage très très important chez les jeunes, eh bien, ils sont tentés par les trafiquants de drogue qui leur proposent 3 000-4 000 euros pour faire la mule. Tous les jours ou presque à Rochambeau, on arrête des mules. Il y a je sais pas, un mois ou deux, je me souviens plus, une jeune femme est morte dans l'avion, overdose, avec un petit qui avait 3 ans, pris en charge à Paris. Bon, l'État possède 90% du territoire et des blocs, il n'y a pas de SAFER, donc des blocs au compte-gouttes, des terres pour les agriculteurs et pour les communes, pour de la construction sociale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Non mais Marie-Marthe, c'est déjà un tableau assez précis et assez noir. Merci Marie-Marthe. Donc je rappelle, vous avez passé plus de 5 ans en Guyane. Alors pour réagir à votre témoignage, à ce constat, ce tableau donc sombre, 3 personnes avec nous. D'abord en direct de Saint-Laurent-du-Maroni, Chantal Berthelot, bonsoir.
Bonsoir à vous et puis bonsoir à Marie-Marthe en particulier qui... Vraiment un témoignage des plus d'actualité.
Et vous êtes députée de Guyane apparentée socialiste et ici en studio à Paris, Françoise Vergès, historienne et politologue. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en face de vous, Bertrand Soublet, ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale et ancien commandant de la gendarmerie d'outre-mer. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Peut-être vers vous, je me tourne, Chantal Berthelot. Comment recevez-vous le témoignage de Marie-Marthe? Est-ce qu'on est vraiment dans un constat réaliste?
Absolument, absolument. Et je suis très heureux que ce soit quelqu'un qui ait vécu en Guyane et qui aime la Guyane, parce que la Guyane est un territoire très attachant avec ses hommes et ses femmes et sa biodiversité, qui puisse décrire ce qu'elle vous a dit, et je le confirme en tout point. Et donc, il est bien que quelqu'un qui vit ici et qui est sur la métropole puisse le dire, et ça compense et ça gomme toutes les bêtises que j'entends sur les réseaux sociaux.
Françoise Vergès, avec nous, quand vous entendez, on ne va pas reprendre tous les éléments, mais certains sont quand même importants. L'école, les enfants non scolarisés, des milliers, nous dit-on, l'immigration clandestine, le manque d'infrastructures, le manque de logement, ça, c'est pas nouveau. Et Marie-Marthe a passé quelques années en Guyane, mais il y a déjà un certain temps, donc ça n'a pas changé.
Non, ce n'est pas nouveau et je pense que Chantal Berthelot, que je salue ici, pourra le confirmer. C'est une situation, n'oublions pas qu'en 2008, les grands mouvements qu'on connaîtra beaucoup en 2009, qui sont notamment en Guadeloupe, ont commencé à la Guyane. Donc on voit bien, il y a eu les états généraux ensuite et quelque chose n'a pas changé. La perception d'être abandonné et que les choses ne changent pas reste très forte. Et c'est vrai qu'il y a la question de l'école, de la santé, du travail, de la formation, restent absolument des points noirs, des points sombres. Il y a comme, si vous voulez, c'est le message, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir en Guyane. C'est le message qui est donné un peu par les institutions et par l'État.
Et on a l'impression que les promesses ne sont que des promesses d'un gouvernement à l'autre.
Oui, mais moi, si vous voulez, je viens de sortir un livre où je montre que, si vous voulez, en 1945, je fais un tout petit peu d'histoire, mais très rapidement, l'État français, quand il commence les grands plans de reconstruction de la France, déclare que le développement sera impossible dans les nouveaux départements d'outre-mer, ceux qui sont devenus départements de 1946, et que les deux seules solutions seront l'émigration et le contrôle de naissance. Et on peut voir ces politiques mises en place au fur et à mesure des années, et qu'aujourd'hui, si vous, cette impression d'un développement impossible reste quand même marquant dans la tête des gouvernements qui se succèdent.
Bertrand Soublet, en tant qu'ancien commandant de la gendarmerie d'outre-mer, quand vous voyez ces chiffres de l'insécurité totalement affolants, une situation que vous avez bien connue, qu'est-ce que vous vous dites? Ça cloche où?
Bah écoutez, la Guyane est un département particulier. J'en profite d'ailleurs pour saluer moi aussi Chantal Berthelot, dont je partage d'ailleurs le constat. C'est un pays, une région très attachante. J'y suis allé par deux fois et très honnêtement, ça n'est pas du tout l'image qu'on peut avoir en métropole. La Guyane n'est pas ce territoire très lointain où on n'est pas bien accueilli et où on se pose des tas de questions, c'est pas du tout ça. C'est un vrai territoire très attachant. Mais il est dans une situation, géographique compliquée. Parce que c'est un département qui est très vaste, puisqu'il représente deux fois la surface des Pays-Bas. Et 98% de forêts équatoriales et surtout deux frontières. L'une de 700 km avec le Brésil. Avec le pays, j'allais dire, l'État le plus pauvre du Brésil, qui s'appelle l'Amapá. Et puis, de l'autre côté, le long du Maroni, le Suriname, 500 km de fleuve. Et évidemment, c'est très compliqué, dans ces conditions-là, de maîtriser les flux et les flux d'immigration. Parce que
mais l'immigration clandestine est vraiment aussi importante qu'on le dit?
Oui, elle est très importante. Elle est très importante parce que la Guyane agit comme un aimant. C'est-à-dire que dans ce continent et entre ces deux pays qui sont en grande difficulté, vous avez les structures de l'État français, les structures de notre pays, qui sont les écoles, les hôpitaux, enfin toutes les infrastructures, mais qui ne sont dimensionnées que pour faire face à la population de la Guyane et pas aux 30 ou 40 000, mais on n'arrive pas à les chiffrer, immigrés clandestins qui sont là et qui évidemment profitent puisqu'ils sont sur notre sol, ce qui est normal du reste, puisque on est quand même une terre d'accueil. Mais dans ces proportions-là, c'est juste insupportable. Et lorsque vous avez autant d'illégaux et qu'ils n'ont pas de moyens de subsistance, que font-ils? C'est de la délinquance. Ce ne sont pas tous des délinquants, mais il y en a quand même une grande partie.
Chantal Berthelot, je rappelle que vous êtes en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. En tant que députée de Guyane, depuis combien d'années tirez-vous la sonnette d'alarme?
Je crois que, si vous permettez, je salue bien sûr François Vergès et Bertrand Soublet. Françoise a fait un cadre historique qui est l'histoire de tous les Outre-mer. Donc j'aurais tendance à vous dire que depuis ce constat ou cette vision que l'Hexagone a eue de ces Outre-mer, qu'effectivement le signal est attiré. On s'est rendu compte à un moment donné que la Guyane dans sa démographie doublait tous les 20 ans. Est-ce que au monde, dans un territoire, dans un pays, vous avez cette problématique-là où la population, elle double tous les 20 ans. Premièrement, Et d'autre part, sa sociologie, la composition de sa population, c'est un fait mouvant. Il n'a pas une population homogène, elle est hétérogène. C'est une richesse, certes. Sauf que lorsqu'on n'a pas les moyens de mettre en valeur, de valoriser cette richesse, eh bien, c'est plutôt des soucis qu'elle vous pose. Donc, effectivement, ça fait des années qu'on dit que la Guyane, par rapport aux autres outre-mer, elle a une particularité que M. Soupe a rappelée, sa géographie, elle serait un continent sud-américain, avec des pays aux alentours et tout ce que ça comporte, parfois d'instabilité et d'échanges et d'interactions que ça doit avoir. Donc, effectivement, lorsque, en 97, le dernier événement qui est le plus symptomatique, il y a eu 2008, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins, en 1996, les jeunes font un mouvement pour avoir un rectorat de Guyane. Il a peur des gouvernances et de dire on a envoyé deux ministres et sous la pression, ils ont fait un rectorat. C'est pas vrai. Il fallait mettre un rectorat en Guyane. 97, les socioprofessionnels font un mouvement très dur qui dure 15 jours. Entre-temps, la Guyane est la doublée population, 97-2017, mais aucun gouvernement successif n'a pris en compte cette réalité qui n'est pas un sentiment d'enfant gâté ou de revendication, je ne sais comment le dire, mais d'une réalité très claire de la dynamique de démographie de notre population. Alors oui, effectivement, on n'a pas arrêté les uns les autres, quelles que soient les fonctions que nous avions, d'alerter sur la situation de la Guyane. Mais on n'entend pas des fois dans l'Hexagone où le fil des 8000 km fait qu'arriver à Paris, on entend « Ah ouais, il y a un petit souci, mais c'est pas grave ». Sauf qu'aujourd'hui, la population, à travers effectivement des collectifs citoyens, font écho à ce qu'on a dit d'une manière beaucoup plus effectivement radicale avec des barrages et autres. Et nous souscrivons à tout ce qui est revendication légitime qu'elle porte, parce que nous-mêmes nous avons porté depuis de nombreuses années. Donc, alors maintenant, je vais finir par vous dire une chose, un pacte d'avenir avait été, tout à l'heure, quelqu'un disait pas d'avenir pour nos territoires. Oui, on a un avenir. Et là-dessus, oui, nous avons un avenir, tous, tout individu, mais encore plus en Guyane, avec les potentialités que nous avons.
Justement, excusez-moi de vous couper, Chantal Berthelot, mais on va rester sur cette question des potentialités et des richesses de la Guyane qui sont nombreuses. On retourne au standard, mais on reste en Guyane. Anna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'où nous appelez-vous bonsoir, exactement, Anna?
Moi, je vous appelle de Montigny-Ritonnet-Grande, en Guyane.
Alors, on vous écoute. On vous écoute, Anna.
Oui, oui, moi je vous appelle, j'écoute France Inter tous les jours. Je vous appelle pour faire trois remarques. Et je remercie France Inter de parler enfin de la Guyane, parce que moi depuis lundi, je vous écoute, rien sur la Guyane. Et voilà, je tiens à vous remercier.
Il y a eu quelques reportages diffusés, Anna, quand même, mais
oui,
on vous écoute.
Mais pas grand-chose. Et je suis une fidèle auditrice de France Inter. Deuxièmement, je voulais revenir très rapidement sur l'intervention du Premier ministre, M. Cazeneuve, quand il parle de l'apaisement, juste pour dire qu'en Guyane, nous ne sommes pas excités, les choses se passent bien, il est important que l'Hexagone le sache, la population est extrêmement bien organisée, moi je suis éleveur, je n'ai pour le moment aucun problème pour ravitailler mon cheptel, parce que nous sommes extrêmement bien organisés, donc il n'y a pas d'excitation sur le département, donc nous sommes apaisés, donc voilà, pourquoi parler d'apaisement alors que nous sommes déjà apaisés. Et je voulais aussi revenir très rapidement sur l'intervention de la journaliste pendant le journal, ce qui a été dit sur la Guyane. Oui. Lorsqu'elle parle de ce que la Guyane coûte à la métropole, à l'Hexagone, je pense qu'il serait intéressant pour l'Hexagone de dire aussi ce que la Guyane rapporte à la métropole. Je citerai en exemple la forêt guyanaise, qui quand même permet à la France d'être exonérée de taxes carbone. Et tout ce qu'on toute la richesse dont parlait Madame Berthelot tout à l'heure, qu'on peut mettre en avant et pas toujours mettre en avant ce qui va pas dans ce département quand enfin on en parle.
Bien, merci Anna de ces éclaircissements précieux. Françoise Vergès, sur les richesses de la Guyane.
Les richesses de la Guyane, oui. Enfin, on pourrait déjà parler de Kourou qui profite.
Spontanément, on ne pense qu'à Kourou
mais
et
qui
la
profite
forêt
très
en deux.
Peu. à la Guyane et aux Guyanais.
Alors expliquez-nous ça, parce qu'on ne le sait pas forcément ici.
On a la France, l'État français avait réussi à faire installer ce projet qui est européen sur un territoire français. Donc ça, c'était évidemment, c'est très important économiquement, c'est important scientifiquement. Mais la plupart des Guyanais travaillent dans des postes vraiment de petite catégorie. C'est très peu les ingénieurs et il y a très peu de retombées. Elle ne se nourrit pas, la Guyane, elle ne continue. Alors évidemment, on parle de la biodiversité, de l'industrie aurifère. Bon, l'industrie aurifère, c'est encore, on pourrait dire, quand même un problème.
C'est un autre parce problème. Que c'est on va un y revenir énorme avec problème. Vous, Bertrand Soublet,
ouais. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a rarement des industries de minerais qui n'entraînent pas de problèmes d'illégalité, de réseaux mafieux. C'est très rare. Et quand on parle de la Guyane ou quand on parle des autres outre-mer, je voudrais quand même rappeler qu'on ne peut pas en parler comme d'un endroit clos. La Guyane, elle aura toujours une frontière avec le Brésil. Elle aura toujours une frontière avec le Suriname. Ça ne s'enlèvera pas. Elle sera toujours en relation avec les Caraïbes. Donc, il y a aussi, je pense, à un moment donné, de penser régionalement. Puisque, comme vous le rappeliez, tous ces migrants, ces personnes qui viennent, beaucoup viennent pour survivre. On va pas. Et en plus, ces fleuves étaient des fleuves sur lesquels on circulait. Ce n'étaient pas des frontières historiquement. C'est devenu des frontières. Donc, il faut aussi penser de cette manière, parce que, je veux dire, on va pas installer des barbelés sur les deux fleuves. Et cette frontière, je veux dire, cette forêt qui est immense de 80%, c'est aussi, je veux dire, la manière de l'exploiter. Ça va être aussi, il faut y penser, parce que on peut pas simplement dire, il y a une forêt à exploiter, et pour tomber dans les travers qu'on a connus au Brésil ou ailleurs, qui entraînent des catastrophes, de vraies catastrophes écologiques. Donc il faut penser profondément à toutes ces choses, et je suis sûre que de toute façon la population guyanaise est la première à penser à ça, mais je voudrais juste, quand on parle des choses, il y a une question locale, mais pour les Outre-mer, il y a aussi toujours une question régionale. Et une question nationale et globale.
Bertrand Soublet, si on s'arrête un instant sur l'industrie aurifère et les problèmes que ça implique, décrivez-nous la situation.
Alors, c'est une situation extrêmement compliquée parce que il n'y a pas grand-chose d'organisé pour l'exploitation aurifère, j'allais dire au plan juridique.
Légalement.
Oui, il y a des exploitations légales, bien entendu, un certain nombre. Mais nous avions été nombreux à proposer à un moment donné l'organisation sous couvert de l'État, mais par la région, de l'exploitation, mais d'une exploitation raisonnée. Manifestement, ça ne rencontre pas un écho extraordinaire, puisque tous ceux qui l'ont proposé, et moi j'en étais, se sont fait conduire. D'ailleurs, j'observe que lorsque je suis allé pour la première fois en Guyane en 2014 pour faire ma première inspection, j'en suis revenu vraiment ébahi et épaté par ce magnifique département, et j'ai écrit aux deux ministres, Christiane Taubira et Georges-Paul Langevin, pour leur dire ce que j'avais constaté sur le terrain, puisque j'étais allé aussi en forêt, parce que la Guyane, c'est aussi la forêt, et les potentialités sont extraordinaires, sauf que on ne s'en occupe pas. Et j'avais mis en garde sur un certain nombre de choses, l'exploitation illégale de l'or qui met en danger aussi le parc national guyanais, ça nous pose un vrai problème en termes de sécurité, parce que vous avez des garimpeiros
aussi,
ouais, qui viennent là illégalement, qui sont des gens qui sont sans foi ni loi, et qui sont capables de tuer sans aucune difficulté pour 10 grammes d'or. Donc cela, il faut les gérer, et si vous voulez, la forêt est parfois un endroit où c'est compliqué de faire régner la loi, mais il n'y a pas que dans la forêt malheureusement.
Je vous en prie, allez-y.
Non, il n'y a pas que dans la forêt, parce qu'il y a un certain nombre de points difficiles. Cayenne est un point difficile en termes de délinquance. La presqu'île de Cayenne, Remire-Montjoly. Ensuite, vous avez au milieu Kourou, qui pose des problèmes parce que vous avez une immense richesse avec le centre spatial guyanais. Et vous avez une extrême pauvreté à côté du centre spatial guyanais. Et donc, évidemment, ces deux extrêmes posent une vraie difficulté de délinquance. Je prends un exemple. À Kourou, 60% des délits d'appropriation, ce sont des jeunes de moins de 15 ans. Ça explose tous les chiffres du pays. Et puis ensuite, vous avez Saint-Laurent-du-Maroni, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera probablement très rapidement la deuxième ville, voire la première ville en termes de démographie, puisque je pense que d'ici quelques années, on atteindra 50 000 habitants. Et il n'y a à ce stade aucune infrastructure prévu pour accueillir autant de gens. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment d'écoles. Mais qu'attend-on ? Pour Saint-Laurent-du-Maroni, un seul exemple. En 2014, quand je suis revenu, j'ai dit « il faut faire une zone de sécurité prioritaire ». Parce que nous en avons besoin pour avoir des moyens, pour nous organiser. Le maire était d'accord, tout le monde était d'accord. On a eu cette zone de sécurité prioritaire 2 ans et demi après. Et qu'a-t-on fait pendant 2 ans et demi ? Eh bien, on a attendu qu'un ministre vienne pour faire l'annonce. Et comme il ne venait pas, on n'a pas fait l'annonce.
Chantal Berthelot, énormément de questions au standard de France Inter et sur Internet autour des attentes concrètes des Guyanais. Il y a Evelyne, par exemple, à Bourg-Saint-Maurice, qui nous dit par courriel « Quelle action concrète de l'État en priorité pourrait débloquer la situation, Chantal Berthelot ?»
En priorité, malheureusement, d'abord, je tiens à dire que j'adhère à tous les propos qui ont été tenus par aussi bien l'éleveur Anna qui est de Montsinéry que par François sur les potentialités de la Guyane, et aussi M. Souplet sur le point qu'il a fait sur l'exploitation riffère et les moyens en termes de sécurité. La priorité, je finirai par le terme, il y en a deux, la sécurité et l'éducation. La sécurité, parce que vous ne pouvez pas avoir les chiffres que vous avez dit en début d'émission et être serein dans vos activités de tous les jours et dans votre vie de tous les jours. Il y a à adapter, il y a à imaginer des moyens sur la sécurité pour répondre à la Guyane. Et M. Soublet a raison, 2016-2014, une ZSP sur Saint-Laurent, attendu, une décision prise, malgré tout, de renforcer les choses, malgré tout, les moyens sont toujours pas là. Vous voyez bien qu'effectivement, entre une décision parfois politique, la mise en œuvre est beaucoup trop longue. Donc, c'est la mise en œuvre concrète que les gens attendent. Je reviens au pacte d'avenir, parce qu'à un moment, quand j'ai dit le mot avenir, vous savez, en novembre 2013, quand je dis au gouvernement, en tant que parlementaire, lorsqu'on voit le budget de l'Outre-mer, je dis qu'il faut que dans le budget de l'Outre-mer, il y a un besoin supplémentaire pour la Guyane. Et je dis à l'État, ce sont ses champs de compétences qu'il faut qu'elle aille surtout pour accompagner justement la démographie de la Guyane. Sur la sécurité, il faut que les moyens soient mis pour la Guyane. En termes de santé, les moyens soient mis. En termes de justice, la chaîne judiciaire est défaillante. Et en termes de construction scolaire, même si la compétence appartient aux collectivités, il faut que le socle de la République soit respecté pour que nos enfants soient scolarisés. Eh bien, l'urgence pour moi, vous me demandez une action, eh bien, voici les 4 actions d'urgence que l'État doit mettre en application en Guyane. Elle aurait dû le faire depuis 2013 ou sinon bien longtemps avant.
Message très clair, Chantal Berthelot. On repart au standard. Didier nous appelle de Guadeloupe. Bonsoir Didier, soyez le bienvenu. On vous écoute, Didier.
Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend parfaitement bien, allez-y.
Oui, je vous remercie. Donc, en fait, ma question, ma réflexion, c'était, en Guadeloupe, on est à l'écoute de ce qui se passe en Guyane de manière très intéressée. Et personnellement, je m'étonne fort que, à la suite des événements qui se sont passés dans l'île ici, il y a 8 ans, qui ont bloqué l'île pendant plus de 40 jours et qui ont démarré un peu comme démarre le mouvement en Guyane aujourd'hui, je m'étonne que toutes les mesures qui avaient été annoncées, certaines d'entre elles avaient été prises, n'aient pas été suivies de près par les différents gouvernements, de façon à éviter que ces territoires deviennent des poudrières. Parce qu'il y a un tel taux de chômage chez les jeunes que moi je m'étonne même qu'il n'y ait pas plus de problèmes que ça, avec une telle oisiveté. Et franchement, je trouve que les accords qui avaient été conclus ici en 2009, à Corbineau notamment, finalement n'ont pas porté leur effet comme prévu, tout a recommencé à dériver, et aujourd'hui les prix dans ces territoires sont repartis à la hausse comme jamais, je dirais. Donc il ne faut pas s'étonner que 8 ans plus tard, de tels mouvements repartent ici ou en Guyane, et notamment aujourd'hui en Guyane.
Didier, par rapport à ces accords de 2009, et on va parler de promesses, est-ce que les promesses ont été tenues ?
Il y avait, sous l'impulsion de Victor Amiral à l'époque, il y avait eu la notion de panier témoin, on dirait, de
produits. Ouais, parce que c'était surtout contre la vie chère. Hein. Ouais.
Et aujourd'hui, franchement, les gens qui arrivent ici s'aperçoivent, enfin, je parle de la Guadeloupe, je ne parle pas de la Guyane, que c'est notre peu, mais en Guadeloupe, ils sont repartis à la hausse de manière très conséquente. Donc on se dit que tout ce qui avait été annoncé et mis en place provisoirement, visiblement à l'époque, n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, au milieu des prix, la vie chère, que quand en 2008, il est dit, ça fait partie des choses qui créent ces situations de conflit
Message compris, Didier. Malgré la liaison difficile, on va encore parler justement des carences. C'en est une, hein. Problème de télécommunication. Françoise Vergès, le parallèle avec la Guadeloupe et d'autres DOM ou TOM.
Ce sont des territoires vraiment qui posent un constant problème. Je veux dire, évidemment, il y a des routes qui se construisent, il y a quelques écoles qui se construisent, il y a des avions qui arrivent tous les jours, il y a des centres commerciaux où on trouve la même chose qu'ici. Enfin, je veux dire, on a une impression, une artificialité, mais c'est artificiel, profondément. Ce sont parmi les régions les plus pauvres de toutes les régions de France, avec un nombre d'illettrisme qui augmente. Je veux dire, il n'y a pas non plus de questions concrètes. Chantal parlait d'éducation. Je trouvais ça important parce que justement, par exemple, en Guyane, ça voudrait dire prendre en compte le fait qu'il y a énormément de langues qui sont parlées en Guyane. Il n'y en a pas qu'une seule. Ce n'est pas le français ou le créole, c'est plusieurs langues. Il y a les bushinengués, il y a les langues des marrons, il y a les langues des peuples autochtones. Et je voudrais rappeler que l'État français a été justement d'ailleurs dénoncé pour les pratiques envers les peuples autochtones récemment par un rapport du défenseur des droits et d'autres. Donc on est dans des situations extrêmement complexes dans les Outre-mer. Ce sont des territoires qui sont issus soit de l'esclavage, soit de la colonisation ensuite. Et ils héritent de ce passé, de l'inégalité du foncier dont on parlait en Guyane, mais qui peut aussi se retrouver ailleurs, de racisme, de profondes manques qui sont évidemment structurels, mais pas seulement structurels. Il faut insister aussi sur la dimension, on pourrait dire, culturelle et sociale, qui va, pour se sentir bien, il ne suffit pas, évidemment, c'est bien d'avoir des routes, des hôpitaux et des écoles, mais on sait bien aussi que c'est la question. Et je lisais, par exemple, un texte de jeunes Guyanais, aujourd'hui, et qui parlait de ça, qui parlait de la question, mais pourquoi on nous enseigne pas l'histoire et la géographie de la Guyane? Pourquoi on nous enseigne pas nos langues, nos littératures? Il y a aussi, donc, toute cette dimension qui est profondément ignorée par l'État français et qui a émergé dans ces territoires depuis, je sais pas, les années 50, on pourrait dire, et pour les Antilles aussi. Donc on voit bien que, si vous voulez, c'est vraiment profondément, je pense qu'il y a comme une cécité. Alors de temps en temps, ça se rappelle à la France. Et alors, évidemment, rapidement, on doit faire quelque chose, parce que sinon, on a peur que ça se déclenche. Mais je voudrais aussi rappeler qu'en Guyane, ça se passe extrêmement pacifiquement. C'est extrêmement calme, il y a une grande solidarité, comme ça s'était passé en Guadeloupe.
Solidaire
d'ailleurs.
Et festif.
Ouais. Oui, une profonde solidarité, il faut le souligner. Mais si vous voulez, en même temps, c'est la question de résoudre ces questions, c'est vraiment de prendre à bras le corps toute une série de questions, pas seulement dans ce domaine. C'est pas seulement la question de la sécurité. La sécurité, c'est pas simplement, je veux dire, évidemment, c'est une première question, mais c'est aussi pouvoir bien vivre et penser que ces enfants pourront vivre dans ce pays-là.
Et c'est ce que disait précisément Chantal Berthelot. Et je reviens vers vous, Chantal Berthelot, avec cette question sur le site franceinter.fr. Et question très précise de François Anand qui vous demande, vous, en tant que députée guyanaise, pourquoi refuser de négocier avec la délégation de hauts fonctionnaires et d'experts dépêchés sur place? Chantal Berthelot.
Oui, alors, pourquoi refuser de les rencontrer? Parce que je ne pense pas qu'un élu négocie avec des hauts fonctionnaires. Permettez-moi de préciser, discuter. Ce que je vais dire aux hauts fonctionnaires, je l'ai dit dans l'hémicycle, et ce que me donne ma légitimité de parlementaire, c'est de dire aux ministres, de dire dans l'hémicycle et 5 questions orales amendement, quand j'ai des arguments, la situation de mon territoire. Donc je n'ai pas à répéter devant des hauts fonctionnaires ce que j'ai dit déjà devant des ministres. Mais ce qu'il faut pour la Guyane, les pactes d'avenir, les états généraux, les pactes de développement, et même, je dirais, le cadre, et je suis d'accord avec François, il faut que là on change notre paradigme vis-à-vis des Outre-mer, et la Guyane, on assume ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut changer le modèle de développement. La France ne peut pas se dire, dans son hexagone, qu'elle imagine ses structures différentes, mais son regard vis-à-vis des Outre-mer, il faut le changer, il faut changer le sens des choses. Il faut que peut-être nos yeux regardent d'abord dans les Outre-mer vers l'hexagone et savoir comment nous positionnons. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers plus de responsabilités sur nos territoires, parce que là aussi, des experts pour me parler de ce qu'il faut et de ce qui manque à la Guyane, permettez-moi de vous dire que les experts, je les ai sur place, non seulement par la représentante des ministères eux-mêmes, d'ailleurs, il y a des rectorats, il y a des DEAL, il y a des affaires maritimes, il y a des DAF, qui savent très bien ce qu'il faut dire et ce qu'il faut proposer, parce qu'ils sont récipiendaires des revendications des uns et des autres, et parce que eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas les moyens d'assurer leur propre activité, leur propre travail. Donc oui, pour ça, je n'ai pas moi en tant que député à aller encore une fois dire à ces hauts fonctionnaires ce que depuis 10 ans, 5 ans, nous répétons incessamment. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est de la parole politique.
Oui, on comprend bien.
Je suis une politique, je veux une parole politique, ça veut dire qu'une décision, et comment cette parole politique, elle est faite à l'heure actuelle par un représentant de gouvernement, par un ministre, comment les décisions sont prises pour accompagner la Guyane dans cette, effectivement, explosion démographique que nous avons, que nous devons justement faire quelque chose de positif. Et Bertrand Soubelle a raison, demain, même pas demain, presque hier, Saint-Laurent-du-Maroni sera la première ville de Guyane. Et là, nous n'avons aucune infrastructure prête à ça. Vous vous rendez compte, depuis 10 ans, même plus, nous attendons un montage financier adéquat pour construire un nouvel hôpital qui a été imaginé il y a 15 ans. Presque, il est trop petit. Dans l'Hexagone, quand vous construisez un hôpital, le montage financier, c'est quoi? C'est 40% de subvention, un peu de prêt d'apport personnel. Il a fallu qu'on se bagarre pendant 10 ans pour qu'on arrive à avoir ces 40% de subvention de l'État pour construire un hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni. Non, là, il faut qu'on soit très sérieux, et c'est pour ça qu'on arrive à un stade de désespération de la population et qui relaie par leur mécontentement ce que nous disons dans les hémicycles et dans toutes les possibilités que nous avons pour le dire. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, je réponds à ce monsieur, je ne peux pas, moi, encore une fois, me dire que je vais m'adresser à ces hauts fonctionnaires.
Mais on comprend parfaitement, Chantal Berthelot, c'est très clair. Et Bertrand Soublet, vous acquiescez à tout ce que dit Chantal Berthelot, oui. Vous opinez du chef.
Oui, parce qu'évidemment, on peut être que d'accord avec Chantal Berthelot. Le diagnostic lucide que l'on peut faire sur la Guyane, et d'ailleurs qu'on peut faire aussi sur d'autres Outre-mer, mais là, il s'agit de la Guyane. Franchement, je ne comprends pas comment on puisse attendre tant de temps alors que tout le monde fait le même diagnostic et qu'on attend que la population commence à se manifester, alors que tout le monde s'est exprimé là-dessus. Tout le monde sait dans quelle situation se trouve la Guyane. Et là, nous sommes à quelques encablures d'une présidentielle et là, la tension monte. Et tout ça n'est pas raisonnable. Pourquoi ? Parce que ceux qui vont venir en Guyane vont faire des promesses, probablement. Mais elles seront tenues par qui ? Par le prochain gouvernement ? Et s'il ne les tient pas, qu'est-ce qui va se passer pour la Guyane? Tout ça n'est pas sérieux. Les 250 000 Guyanais méritent beaucoup mieux que ça.
On repart au standard, et toujours avec un auditeur de Guyane, c'est Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc je travaille dans l'écotourisme en Guyane, et pour vous dire qu'on peut vraiment valoriser la biodiversité avec des grands succès, on arrive à faire des loges flottants, et c'est des outils qui fonctionnent bien. Ce qui est important, c'est de dire aux jeunes de Guyane qu'il y a des vrais potentiels en Guyane et qu'on peut les développer et qu'on peut ouvrir un vrai avenir pour la Guyane, et que un des gros points, des gros freins du développement de la Guyane, c'est l'état d'esprit d'une administration qui est hostile au développement, et que nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait un changement d'état d'esprit de cette administration d'État, qu'elle soit dans l'accompagnement du développement, en particulier du développement durable, et on va pouvoir donner des vraies perspectives à la Guyane.
C'est-à-dire, c'est quoi les blocages, excusez-moi Jean-Louis, concrètement, pour qu'on se rende compte?
C'est-à-dire que vous avez une ministre qui s'appelle Madame Pompili qui passe pour dire développer l'écotourisme, essayer de faire la même chose qu'au Costa Rica, et nous on a le DEAL de la Guyane qui est totalement en harcèlement de ce qu'on fait dans notre travail, et en fait dans l'administration on a des enverdeurs qui bloquent complètement le développement durable qu'on essaie de faire. Qui font mourir des villages et qui empêchent complètement le développement de la Guyane.
Merci Jean-Louis de ce témoignage, et j'y joins celui d'Alberto qui nous dit « J'ai vécu en Guyane, pour quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est très difficile. Les gens vous empêchent de construire, ils empêchent les métropolitains de s'installer en quelque sorte. Il faut connaître du monde pour être intégré. » Je vous livre ces deux témoignages, Françoise Vergès.
Il y a de toute façon, il y a des freins qui sont des freins historiques et culturels, et il y a de vraies questions effectivement par rapport à ce qu'on appelle les métropolitains. Il y a une vraie question qui se pose. Je veux dire, pour les gens de pouvoir développer localement, de se dire c'est notre pays quand même, et de se dire la Guyane, ça a une histoire, elle a une histoire, elle a des cultures, elle a des langues, et donc il y a cette relation, il faut la repenser. Je pensais quand Chantal parlait, je pensais à cette phrase de Césaire qui dès 56 disait, il faudra une révolution copernicienne des mentalités pour que quelque chose se passe. Cette révolution n'est pas encore arrivée, nous sommes en 2017. Et je pense que tant qu'elle ne sera pas arrivée, tant qu'on n'en aura pas changé, tant que les personnes qui prennent les décisions en France, les partis politiques, n'auront pas compris, mais qu'est-ce que c'est que cette République qui a tous ces territoires extrêmement différents les uns des autres, et en Guyane, des communautés qui parlent des langues différentes, qui ont eux-mêmes des mémoires différentes, des cultures différentes et peut-être des régions. Et qu'est-ce que ça fait, quand on met tout ça ensemble, comment on pense tout cela? Et chaque un de ces territoires est inscrit dans une région très différente, en pleine mutation. Et avec les mutations globales qui se passent, dont nous ne sommes pas protégés hein, dans les Outre-mer, on ne vit pas sous une cloche. Hein. Ce qui se passe dans le monde, ça a des échos. Toutes les transformations de l'économie, ça a des échos. Les transformations techniques, de technologies, scientifiques. C'est de ça qu'il faut penser. Alors évidemment, là, immédiatement, il y a des choses à faire en Guyane. Mais ces choses à faire, elles doivent aussi être pensées sur le longtemps. Et ce longtemps, pour moi, profondément, sans cette révolution copernicienne des mentalités, on se retrouve dans quelques mois dans ce studio. Sinon,
on dira le même constat.
On fera le même constat.
Bertrand Soublet, en tant qu'ancien commandant de la gendarmerie d'Outre-mer, vous dites quoi là? Ça va peut-être marcher ou effectivement il faudra un temps long, un vrai changement de mentalité, et ça c'est pas du politique.
Oui, je pense qu'il faudra du temps pour mettre en route un certain nombre de politiques qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Clairement, elles sont à l'arrêt en Guyane comme ailleurs. Mayotte en est un autre exemple typique. Mais il faudra le temps long, il faut que chacun s'attelle à la tâche. Il y a un certain nombre d'infrastructures, effectivement, je pense, d'administration qu'il va falloir aussi dépoussiérer. Il faut donner les moyens de travailler. Je vois par exemple l'établissement pénitentiaire qui est en Guyane à Ramire-Montjoly et ça n'est pas très sérieux aujourd'hui en 2017. Donc, quand on met quelqu'un en prison, il faut lui donner des moyens, des conditions dignes de vie. Et c'est partout pareil en Outre-mer. La Guyane n'est pas un cas particulier. En Guadeloupe, c'est la même chose. Vous savez, quand vous avez dans un établissement pénitentiaire 117 matelas par terre, parce que les détenus couchent par terre, c'est absolument scandaleux. Donc, nous sommes en surpopulation pénale actuellement en Guyane. Et évidemment, comment voulez-vous faire si vous ne pouvez même pas mettre les gens en prison décemment? Donc, on a vraiment un blocage de tout le circuit, de tout le système. Et il va falloir vraiment, à mon avis, que l'État fasse de grands efforts pour la Guyane, parce qu'elle le mérite.
Ben on va voir ce qui se passe avec cette délégation donc de ministres hein, censés arriver avant la fin de la semaine à annoncer le Premier ministre Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand Soublet, ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale et donc ancien commandant de la gendarmerie d'Outre-mer. Merci Françoise Vergès, historienne et politologue. Dernière publication, c'était Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme chez Albin Michel. Et merci infiniment Chantal Berthelot, députée de Guyane, apparentée PS. Et vous étiez en direct de Saint-Laurent du Maroni. Merci beaucoup.
Merci.